en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Glenn Bowersock, bonjour. Nous sommes très contents de vous accueillir à Canal Académie. Vous êtes un helléniste et un historien d'histoire romaine reconnu internationalement dans le monde universitaire. Vous avez été professeur à Harvard et à Princeton.
Mais pas à l'université, il faut le dire. C'est à l'Institute for Advanced Studies, c'est une institution tout à fait différente. Il faut établir ça.
Très bien. Et parmi les dizaines de livres que vous avez écrits, citons « Mentir vrai dans l'Antiquité » que les amateurs d'histoire en France connaissent bien, publié aux éditions Bayard et non Fayard, qui parle de littérature païenne et des évangiles.
Et vous venez de publier chez Armand Collin une biographie de Julien Laposta en novembre 2008.
Oui, oui.
C'est dire un petit peu de vos multiples centres d'intérêt. Et vous êtes en France en ce moment, en visite à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont vous êtes un membre associé étranger depuis 1996. Et sous la coupole, vous allez faire un discours consacré à Louis Robert, dont on va parler au cours de l'entretien. Glenn Bowersock, pour commencer notre entretien, pour vous présenter au public français, vous vous êtes intéressé à l'Empire romain dans vos recherches et en particulier aux cultures orientales de cet empire.
Il s'agit de la partie orientale de l'empire. Il y a aussi des cultures et des régions qui était vraiment en marge, mais j'ai commencé mes études scientifiques en examinant la culture de la partie de l'Empire dans l'Orient, c'est-à-dire l'Asie mineure, la Grèce, le Proche-Orient et les provinces du Proche-Orient sous l'empereur Auguste. Et ce n'est pas une étude des marges.
Non, mais parce qu'à ce moment-là, l'Empire avait déjà
bien sûr. Oriental. Mais après, je me suis intéressé beaucoup aux cultures en marge, c'est-à-dire à travers l'Euphrate, l'Iran, Afghanistan et tout ça. Mais ça est venu plus tard.
Plus tard. Mais au début, vous avez
commencé avec l'Empire romain.
La partie orientale de l'Empire romain.
Oui, oui. Et mon maître était le grand professeur de la Nouvelle-Zélande et qui a enseigné en Oxford, Sir Ronald Syme, qui est un des grands historiens de l'Empire romain du XXe siècle. Et c'était lui qui m'a inspiré à poursuivre mes études de l'Empire romain. Mais pour la partie orientale et pour les langues sémitiques, c'est autre chose. Pour moi, j'ai développé un intérêt au mélange des cultures, c'est-à-dire les cultures helléniques dans le Proche-Orient et dans l'Asie mineure et les cultures locales, c'est-à-dire sémitiques, les cultures des Juifs et les cultures des Arabes et les cultures des nomades. Et ça est devenu la chose qui m'a surtout intéressé, ces mélanges de cultures et si l'on peut dire.
Alors comment on fait
l'interaction, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, bien
en
sûr,
français bien. L'interaction de plusieurs cultures dans une région, par exemple le Proche-Orient, sémitique de l'origine, mais fortement hellénisé, par exemple, le grand et les Macédoniens, et après ça, occupé par les Romains. Et ça fait culture mélangée qui a beaucoup de choses à dire à nous, dans un monde globalisé, si l'on peut dire ça, avec beaucoup de cultures. Et c'est à cause de ça que je suis devenu historien de l'Arabie romaine. J'ai écrit un livre sur l'Arabie romaine, c'est en anglais, il n'y a pas de traduction française, mais à mon avis, c'est fondamental pour mon œuvre. Et aussi une biographie de Julien Laposta, qui vient de paraître en français il y a deux semaines chez Armand Collin. Et il y a toujours ce thème de culture, de beaucoup de culture dans une région.
Donc, alors, vous êtes intéressé donc à la Syrie, à la Palestine, oui, à l'Arabie pré-islamique.
Et j'ai appris les langues, nabatéen, palmyrénien, hébreu, éthiopien, tout ça pour m'aider à comprendre ces cultures. C'est absolument important, essentiel, parce qu'on ne peut pas comprendre ces cultures sans une connaissance des langues, à mon avis.
C'est la question qu'on pose toujours aux académiciens des inscriptions et belles lettres. Combien de langues parlez-vous ? Non seulement ça nous impressionne beaucoup, ça nous déprime aussi. Mais effectivement, on est très impressionnés des qualités et du talent que ça réclame au point de vue linguistique, de dépouiller ces sources anciennes dans des langues
sémitiques. C'est fondamental pour de telles études. Et j'insiste sur ce point auprès de mes élèves à Harvard, par exemple. À l'Institut où je me trouve maintenant, je n'ai pas d'élèves, mais j'ai beaucoup de collègues.
De toutes ces langues, quelle est celle qui, par exemple, pour vous, pour votre plaisir, que vous appréciez?
Il y a un plaisir dans toutes les langues.
Dans toutes les langues.
Toutes les cultures, oui. Il y a des plaisirs particuliers. Oui, évidemment. Évidemment, oui.
Revenons un petit peu à l'Arabie pré-islamique, à l'Arabie orientale là, que vous avez étudiée dans vos recherches.
J'ai commencé mes études d'arabe, cherchant les sources pour l'Empire du IIe siècle, dans les textes du médecin Galien. Et vous savez peut-être qu'il y a beaucoup de textes galiens qui n'existent qu'en arabe. Des traductions arabes, des textes perdus en grec. Et c'était à cause de ça, dans les années 60, que j'ai appris, ou j'ai essayé d'apprendre, c'est très difficile, la langue arabe. Et quand j'ai fait ces études, et je pouvais lire,
Galien.
pas brillamment, mais je pouvais lire les textes arabes, j'ai vu qu'il y a tout un monde à découvrir pour les relations entre ces peuples arabes et les Grecs, et les Romains, et les Iraniens. Et c'est tout un monde à découvrir. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé d'employer ma connaissance d'arabe et de langue sémitique pour illuminer l'histoire que je connaissais avant comme histoire des Grecs et Romains. Mm-hmm. Et maintenant, une histoire beaucoup plus approfondie, beaucoup plus large. Mm-hmm. Et ça a commencé alors avec...
Sur les tribus aussi, c'était intéressant de travailler aussi sur pour comment approcher ces populations qui étaient des tribus. Il y avait des tribus,
oui.
C'était beaucoup moins... Enfin, c'était un monde hellénisé, vous l'avez dit, mais il y avait
aussi
mais
avec leur tradition locale et ethnique, oui. Et nous parlons des nomades et des sédentarisés aussi. Et il s'agit de Palmyre, par exemple, une grande ville.
En Syrie.
Et de Petra.
Ce sont des sites magnifiques.
En Jordanie, magnifique. Mm. Mais il y a aussi des tribus, comme vous le dites, qui avaient des relations entre ces grandes villes et le commerce. N'est-ce pas, les commerces de la péninsule de l'Arabie saoudite et l'encens et aussi le commerce de soie qui vient de la Chine à travers l'Asie centrale. Maintenant, il faut dire qu'il y a un intérêt énorme, surtout en France, il faut le dire, dans l'Asie centrale. Et ça me réjouit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jeunes savants qui s'occupent de l'histoire et des langues de l'Asie centrale. Et c'est précisément...
Le carrefour.
Oui, le carrefour, c'est exact. Le carrefour des cultures depuis longtemps, qui avait des influences helléniques dans l'art de Gandhara, par exemple, l'art indienne. Mais pour l'Asie centrale et l'Asie avec la Chine, c'est quelque chose remarquable de nos jours, maintenant. Je cite, par exemple, les œuvres d'Étienne de la Vessière, l'école pratique ici à Paris, qui a écrit beaucoup de livres sur l'Asie centrale et les Sogdiens. Les Sogdiens, pendant les années 50 du siècle passé, presque personne ne connaît les noms des Sogdiens. Et maintenant, il y avait un congrès ici à Paris, il y a 2 ans, je crois, sur les Sogdiens pour 3 jours, avec beaucoup de collègues. C'est quelque chose de remarquable. C'est un changement fondamental dans nos études.
C'est vous qui avez ouvert cette voie sur ces régions-là ? Par vos recherches, vous avez beaucoup contribué vous-même.
À effectuer ce changement. Et j'ai écrit un article sur l'Arabie romaine, c'est-à-dire la province d'Arabie. En effet, c'est la région de la Jordanie. Ce n'est pas, c'est
pas, pas l'Arabie, la péninsule
pas l'Arabie,
d'aujourd'hui.
De la péninsule, mais la Jordanie. J'ai écrit un article en 71. Et j'ai indiqué ce que nous savions en ce moment-là et ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, et ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire maintenant. Et je crois que c'était une sorte de programme.
Le programme de recherche.
Ou de recherche.
Ouais. Et sur quoi vouliez-vous ?
L'Asie centrale, ce n'était pas...
C'était pas ça à quoi vous aviez pensé tout de suite ?
Une partie de mes études en ce moment, mais c'est une extension, c'est un supplément important de ce que j'ai proposé en 71.
Vous êtes un des chercheurs qui avait tout de suite insisté sur le monde gréco-romain. On en parlait peu tout à l'heure, justement, sur cette fusion des cultures aussi. Hein.
Oui, bon.
Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire globale dont on parle aujourd'hui ? Vous faisiez déjà l'histoire globale.
C'est une idée un peu difficile, globalisation, mais il y a quelque chose d'important quand même dans cette idée. Normalement, je n'utilise pas le mot globalisation, mais ce qu'il y a dans cette idée, il y a quelque chose d'important pour nos jours, à mon avis. Il y a une relation entre pays, entre cultures, entre économies. Vous le voyez maintenant dans la chute des économies à travers tout le monde. Il y avait quelque chose de pareil dans le monde de l'Empire romain, dans les siècles, les 2e, 3e siècles. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il y avait ce grand changement. C'est une sorte de changement, on peut dire, apocalyptique, avec l'arrivée du christianisme comme le principe gouvernant de l'Empire du 4e siècle. C'est difficile à étudier, c'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose dans cette idée de globalisation.
Vous qui êtes un grand antiquisant, comment vous percevez dans le monde d'aujourd'hui les phénomènes culturels ? Comment justement ces fusions s'opèrent aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous intéressez à cet aspect très contemporain des choses ?
Oui, mais... ça a commencé dans l'histoire moderne, à mon avis, avec la colonisation. Que les colonies françaises et les colonies britanniques, et il ne s'agit pas exactement des colonies américaines, mais c'est presque la même chose. L'influence américaine, c'est une sorte de colonisation, évidemment. Et je crois que ça, c'est le vrai parallèle. Parce qu'il y avait, dans la croissance de l'Empire romain, il y a des colonies, mais aussi des relations de commerce, il y a aussi des relations de culture. Il y avait des Grecs qui parlaient à Rome, il y avait des Romains qui ont étudié dans les écoles des Grecs en Grèce et surtout à Rhodes, l'île de Rhodes, par exemple, en Asie mineure. Il y a des parallèles qui sont frappants.
Donc, vous vous êtes intéressé, par exemple, aux rêves dans les sources habituelles du monde antique. Vous êtes un des premiers à vous être intéressé, justement, aux sources de fiction romanesque. Enfin, on ne peut pas dire romanesque, c'est trop 19e, mais au roman.
C'est une autre partie de
sources,
ma vie.
Voilà.
Mais il y a des relations.
Alors,
oui.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce domaine-là?
Il faut dire que je suis un homme de littérature.
Voilà, vous êtes
je suis un historien
de tous les domaines.
Qui a toujours beaucoup apprécié la littérature. Et j'ai commencé mes études à l'université en philologue. Et vous verrez, ou les collègues verront, qu'il y a une certaine passion pour la philologie, pour la littérature, dans toutes mes études historiques. Et c'est un principe qui m'est cher, c'est-à-dire la relation entre la littérature et l'histoire. Et quand je me suis intéressé à l'histoire des régions orientales, j'ai naturellement lu les grands romans helléniques de la période de l'Empire romain. Nous avons 5 ou 6 romans de cette période. Et le cadre historique de ces romans sont helléniques, et sont la partie orientale, Éthiopie par exemple, pour Héliodore. C'est le grand roman d'Héliodore. C'est fantastique. C'est très bien écrit et très bien imaginé avec une mise en scène en Éthiopie. Ah, c'est passionnant pour moi, évidemment. Et encore, moi, je peux voir les relations entre mes intérêts strictement historiques et mes intérêts dans la littérature grecque et romaine. Et j'ai essayé d'exploiter les romans et la fiction comme source historique. J'ai décidé de consacrer tout un livre à ce sujet. Et en donnant des conférences en Californie pour commencer, c'était une bonne région pour ces choses. La Californie m'a frappé. En effet, on a négligé la littérature de fiction.
Ce n'est pas la démarche
général,
habituelle de l'historien aussi.
Non, pour les historiens,
voilà.
On a négligé. Et pour moi, vous verrez maintenant, les romans du jour sont une partie de la culture de nos jours. Et c'est à cause de ça que j'ai essayé d'accentuer l'importance de ces
textes. Dans ce domaine de recherche,
oui,
de ces textes.
Comme source historique. Et tout récemment, vous le savez, il n'y a pas de traduction française, mais j'ai écrit un livre sur les mosaïques. Et c'est également l'art, comme la fiction, qui est vraiment une source historique pour notre compréhension d'une société perdue. Et on peut voir dans les images, dans les mosaïques, même dans les peintures, dans les sculptures, des traits de la culture de ces personnes.
Est-ce que vous pourriez nous décrire une mosaïque célèbre qu'on pourrait avoir, nous, en tête, où justement vous décelez ces influences?
Oui, mais sur le livre sur les mosaïques que je viens de publier, j'ai une image sur la couverture qui est vraiment frappante. Passionnant. C'est une mosaïque dans une collection privée, malheureusement. Mais j'ai obtenu le droit de publier, qui vient d'Edesse.
Oui.
Edessa.
D'Edesse, en Turquie, aujourd'hui.
Mésopotamie.
Oui.
Oui. C'était une grande ville de la chrétienté syriaque, n'est-ce pas? Et on voit dans ce mosaïque des inscriptions en syriaque, langue syriaque, lettres syriaques, langue syriaque. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit Prométhée en train de donner la vie à des petits modèles pour personnes qui étaient en train d'être inspirées par Psyché, l'âme. Et la petite âme, comme une sorte de papillon, inspire la vie dans ces petits modèles. Et Prométhée est en haut avec Zeus, avec Héra, l'épouse de Zeus, en regardant cette scène de la création. C'est une vraie mosaïque de création qui vient du centre du chrétienté syriaque avec un mythe totalement grec, mythologie, Prométhée, Psyché. Pour moi, c'est vraiment passionnant parce que c'est une mosaïque du 3e ou plutôt du 4e siècle qui montre la création, le moment de création, mais le moment de création dans la mythologie grecque,
grec.
Dans un centre chrétien.
Oui, quand la religion chrétienne est officielle. Pas encore,
Théodose. On ne peut pas dire, mais à peu près.
À peu près, c'est oui. Vraiment...
Non, c'est vraiment extraordinaire.
Donc c'est sur
c'est la persistance, et ça n'indique pas une sorte de paganisme caché dans la population, pas du tout.
C'est une référence naturelle, on pourrait dire.
Exactement, c'est une référence naturelle. C'est le monde dans lequel ces personnes vivaient. Mm. Mais c'est une bonne illustration, et c'est ce dont je parle.
On va marquer une courte pause et se retrouver dans quelques instants, Monsieur Glenn Bowersock.
Elle se cache place Fürstenberg à Paris. Elle est la demeure de l'un des plus grands artistes peintres de notre temps, l'artistique demeure du peintre Delacroix. Une émission en libre écoute sur Canal Académie. Retrouvez un atelier fabuleux au cœur de Paris et plongez dans l'univers de l'homme qui fut membre de l'Académie des Beaux-Arts dès 1857.
Glenn Bowersock, vous avez aussi étudié dans ses sources littéraires de l'Antiquité le rapport aussi à la religion, entre la religion et l'histoire, en fait. Comme vous venez de nous parler des arts, qui nous apprennent beaucoup de choses sur ces cultures antiques, sur la religion, sur les religions, puisque vraiment là, on est dans la pluralité dans le monde antique, on parle des religions de l'Empire romain. Ces sources littéraires vous ont aussi beaucoup appris. Qu'est-ce que...
Les grandes sources pour la religion, les inscriptions à part, c'est-à-dire les dédicaces et tout ça, on trouve dans les textes comme des apôtres, n'est-ce pas? C'est un texte qui a beaucoup de rapprochement à la fiction grecque. C'est une sorte de narrative, est-ce qu'on peut dire? C'est bien une narrative des voyages du Saint-Paul. Et, il y a beaucoup de rapprochements. Dans les textes des romans, il y a beaucoup sur la religion de la région. Et évidemment, ce n'est pas tout à fait imaginé parce que c'est un cadre historique pour la fiction. Et je peux invoquer aussi les actes des martyrs.
Parce
que les actes
travaillé.
Des martyrs sont un peu comme les grandes œuvres de fiction. Mais on croit que la base de ces actes ne sont pas inventés. Mais il y a de parallèles en la présentation des épisodes de religion, des conversions, la vie des convertis et les conflits avec les juifs et avec manichéens et tout ça. Il y a évidemment une relation très proche entre la fiction et les grands textes ecclésiastiques. Et je laisse à part naturellement les inscriptions qui est peut-être les sources les plus révélatrices, oui, parce que ces inscriptions viennent des personnes elles-mêmes. Mais ça, c'est un autre domaine de recherche.
Vous avez participé à la série documentaire sur l'Apocalypse, la série faite par Prieur
Mordilla.
Et Gérard Mordilla. Et là, je crois que justement, c'est encore un autre aspect, mais cette fois, ce n'est pas une source, on va dire, de romans, de littérature, mais c'est le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, qui est traité dans cette série documentaire.
Oui.
Pourquoi est-ce que dès le IIe siècle, les chrétiens ont éprouvé le besoin d'avoir, de produire une littérature à eux?
Mais ça a commencé dans le 1er siècle.
Oui.
Mais vous parlez des actes et martyrs, et oui. Des traités, des grands personnages, et des lettres aussi, les lettres d'Ignace par exemple. C'est normal s'il y a religion qui était en état de croissance. Et
est-ce que justement c'est pour cette raison?
C'est pour avoir des liens entre les membres de la communauté à travers le monde. C'est, à mon avis, c'est normal d'avoir des lettres, des textes précieux pour indiquer les miracles qui ont arrivé dans n'importe quelle partie de l'Empire. Mais ce qui me frappe, c'est que la forme littéraire de ces documents...
C'était très novateur.
Ce n'est pas tout à fait novateur. C'est une forme qu'on trouve déjà dans la littérature païenne. Et dans le livre dont vous avez parlé, Le mentir vrai, j'ai proposé, et c'est un peu scandaleux peut-être, mais j'ai proposé qu'il y ait une sorte de chariste dans le roman de Pétrone, le Satyricon. Il y a de parallèles frappants, mais pas tout à fait convaincants, mais il faut signaler qu'il y avait... Encore une fois, c'est tout un monde dans lequel ces personnes diverses vivaient.
Glenn Bowersock, vous êtes membre associé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1996 et vous étiez en lien très étroit avec cette académie par les amitiés qui vous liaient à de grands savants, à Ronald Syme dont vous avez parlé et puis surtout à
il
Louis Robert.
Il était aussi membre associé.
Voilà, oui. Voilà. Et
aussi mon ami Mogliano.
Également un autre membre. Alors cette fois, on dit ordinaire, mais ils n'ont rien d'ordinaire, mais c'est le vocabulaire, c'est
oui,
voilà, pour le distinguer. Il y avait aussi Louis Robert, qui est un grand épigraphe helléniste, qui était professeur au Collège de France, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et avec lequel vous étiez ami, que
oui.
Vous avez rencontré,
très
etc.
Proche.
Vous étiez très
comme
très
comme mon amie Béatrice Meyer, qui m'aide toujours...
Et qui a elle-même connu Louis Robert également et son épouse. Alors justement, il se trouve que l'épouse de Louis Robert, à la disparition de son mari, elle fait un don, elle a légué à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, on va dire, toutes les recherches, les articles, les sources accumulées, les estampages réalisés en Asie mineure par ce couple d'épigraphistes convaincus. Je crois que vous avez plus que de l'amitié pour ce couple et pour Louis Robert. Et donc, vous avez été désigné par Madame Robert comme responsable de ce fonds, aujourd'hui entreposé à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et ouvert aux chercheurs, mais on va voir comment. Alors d'abord, qui c'était ?
J'ai beaucoup, énormément admiré les Robert et les œuvres des deux Robert.
C'est difficile de dire que Louis, effectivement, n'a tant
vous savez que le domaine des recherches des Robert était presque toute l'Antiquité grecque, sauf la période archaïque, mais c'est la période classique, le 4e siècle avant Jésus-Christ, et jusqu'à l'époque arabe. C'était un domaine de recherche sans pareil. Et ce que j'ai tant admiré dans les œuvres de Robert et de M. Robert, c'est la connaissance parfaite non seulement des inscriptions, il était épigraphiste, évidemment, mais de la géographie, de la littérature, de la poésie, de la métrique. C'était une compétence qu'on ne trouve presque jamais. Et pour moi, c'était toujours une source d'encouragement, d'inspiration. Et j'ai fait la connaissance des deux Robert à la fin des années 60.
C'était où ?
Pardon ?
C'était où ? À quel endroit vous les avez rencontrés ?
À Paris.
À Paris,
parce...
Vous ne les avez jamais rencontrés au Proche-Orient ou...
Non.
Vous
non,
êtes croisés à Paris.
Et pour Louis Robert, sa région, c'était l'Asie mineure. Aussi la Grèce, mais surtout l'Asie mineure. Non, mais j'ai voyagé beaucoup moi-même aussi en Asie mineure et nous avons beaucoup de choses à parler ensemble. Mais j'ai échangé des tirés à part avec les Robert et quand je suis arrivé une fois à Paris, j'ai fait contact avec les Robert et après ça, c'était une amitié précieuse pour moi. J'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir les deux Robert aux États-Unis quand j'étais président de mon département des études classiques à l'université d'Harvard. Et c'est la seule fois que les Robert ont fait une visite aux États-Unis parce que les Robert ne parlaient pas anglais. Les deux sont arrivés, ils ont parlé français tout le temps et j'étais fort étonné que tous mes collègues parlaient français. C'était une sorte de célébration extraordinaire aux États-Unis. Les collègues sont venus à Cambridge, Massachusetts, c'est-à-dire à Harvard, de toutes les parties de l'Amérique du Nord, du Canada et de Californie. Et tout. C'est une sorte de ce que nous appelons maintenant, vous savez, dans l'Antiquité, on parle des célébrations comme des concours et des cérémonies du culte. Et nous avons parlé de Robertaya. Robertaya, c'est la célébration des Robert dans la manière antique. Et c'était inoubliable. Et après, je suis resté en contact avec les deux. Et Madame Robert est venue, après la mort de son mari, à Princeton, au début des années 90. Et c'est à cause de ça qu'elle a eu l'intention de donner les livres et les archives à Princeton. Mais évidemment, ce n'était pas une bonne idée pour nous, parce que nous avons beaucoup de livres déjà, et ce n'est pas une bonne idée pour les Français, parce que c'est un trésor évidemment français. Et j'ai accepté quelque chose, mais après ça, la plupart des estampages et des livres et des documents sont restés ici, dans leur appartement, avenue René Coty.
Et
finalement, c'était Monsieur Leclan généreusement et proposé que l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres recevrait la donation de ces trésors. Et c'était parfait, la solution. Mais Jean Robert a proposé, insisté, que je sois le responsable. Et je le suis.
Comment vous pouvez nous présenter la richesse de ce fonds ?
C'est difficile à exagérer.
Mais vous n'exagérez pas, on le sait bien.
Il s'agit des estampages, vous savez, c'est-à-dire les images pressées, si l'on veut dire ça.
Des inscriptions qui ont été gravées sur les pierres, dans les monuments.
4000 estampages. Et parmi ces estampages, beaucoup d'inédits et aussi estampages faits par collègues en Asie mineure de le 19e siècle. Il y a aussi des trésors que M. Robert a reçus de n'importe quelle personne. Et alors, je parle des estampages, mais il y a des livres, il y a des carnets de voyage avec tous les détails des voyages des Robert. Il y a des dossiers, des projets, des œuvres inachevées.
Parce qu'en fait, il ne nous est pas resté une synthèse de tous ses travaux. Il a beaucoup travaillé sur sujets très nombreux.
Oui.
Et on n'a pas de livre majeur. De synthèse.
Ce n'est pas sa manière.
Voilà.
Ce n'est pas sa manière. Parce que tout était en train de...
Tout l'intéressait.
Oui. Et aussi, synthèse, une grande synthèse ne s'intéressait pas. C'était ce savant... très scrupuleux. Et pour faire une grande synthèse, il ne faut pas être scrupuleux. Il ne faut pas avoir manque de curiosité pour faire une synthèse. Parce qu'il faut supprimer quelques détails, quelques remarques qui peut-être vont nuancer ce qu'on a dit. Et ce n'est pas la manière de M. Robert. Mais en totalité, tous ces livres, toutes ces œuvres, si l'on a le temps de lire toutes ces œuvres, en totalité, on a une connaissance presque parfaite du monde antique, du monde.
Écoutez, merci Monsieur Glenbauer Sock de cet entretien et de cet hommage à Louis Robert, qui ne manquera pas de refléter à la fois la fraternité, la connivence et les liens entre ces chercheurs de différents pays. Et c'est un des symboles, cette fraternité entre savants, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Merci.
Merci à vous.